Nous reprenons, si vous le voulez bien. Alors, notre invité aujourd'hui est Edward Hughes, qui est professeur de littérature française à l'Université de Londres, à Queen Mary College. Je voudrais dire quelques mots de lui avant de lui donner la parole. Et puis c'est l'occasion de citer Richard Bales, puisque je crois qu'il était votre patron, votre directeur de thèse. Vous avez fait votre thèse sous la direction de Richard Bales, qui était professeur à Belfast et qui vient de mourir au cours de l'automne dernier, qui était un éminent proustien, un ami d'un certain nombre d'entre nous, c'est l'occasion de dire un mot de lui. Je ne l'ai pas invité l'année dernière, c'est quelqu'un que j'aurais dû inviter à parler ici, c'est malheureusement trop tard. Il a dirigé votre thèse qui est intitulée « Marcel Proust, A Study in the Quality of Awareness », publié en 1983. C'était bien ça votre thèse,
c'est ça.
Et depuis, Edward Hughes a des intérêts beaucoup plus larges. Il a publié un certain nombre d'ouvrages sur Camus, sur la peste et sur le premier homme. Il est l'éditeur d'un ouvrage collectif, le Cambridge Companion to Albert Camus, publié l'année dernière. Ses intérêts pour la littérature française du second XXe siècle sont encore plus larges, puisque son dernier ouvrage publié non collectif est intitulé « Writing Marginality in Modern French Literature from Loti to Genet ». Donc de Loti à Genet, l'écriture de la marginalité dans la littérature française moderne. Il n'a pas pour autant délaissé Proust, puisqu'il a participé, comme beaucoup des invités que nous avons eus ici, au dictionnaire Marcel Proust publié chez Champion en 2004, et que ses intérêts actuels le portent à l'étude des questions de classe, et je crois que c'est vers ce sujet qu'il lira aujourd'hui, puisque son titre est Perspective sur la culture populaire chez Proust. Donc, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier très sincèrement Antoine Compagnon d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à participer à son séminaire aujourd'hui. Pour moi, c'est un grand honneur auquel je suis très sensible. Mon sujet aujourd'hui, c'est perspective au pluriel sur la culture populaire. Et en guise d'introduction, j'aimerais commenter un court extrait des Plaisirs et les Jours dans lequel le jeune Proust prononce une sorte de plaidoyer pour une conception plurielle de la culture. Le titre du texte Proust, c'est « Éloge de la mauvaise musique » et vous le trouverez dans les exempliers qui ont été distribués. Je vais en lire quelques lignes. Éloge de la mauvaise musique. Détestez la mauvaise musique, ne la méprisez pas. Comme on la joue, la chante bien plus passionnément que la bonne, bien plus qu'elle, elle s'est peu à peu remplie du rêve et des larmes des hommes. Qu'elle vous soit par là vénérable, sa place, nulle dans l'histoire de l'art, est immense dans l'histoire sentimentale des sociétés. Le respect, je ne dis pas l'amour, de la mauvaise musique, n'est pas seulement une forme de ce qu'on pourrait appeler la charité du bon goût ou son scepticisme, c'est encore la conscience de l'importance du rôle social de la musique. Combien de mélodies, de nul prix aux yeux d'un artiste, sont au nombre des confidents élus par la foule des jeunes gens romanesques et des amoureuses. Que de bagues d'or, de ah, restes longtemps endormis, dont les feuillets sont tournés chaque soir en tremblant par des mains justement célèbres, trempées par les plus beaux yeux du monde de larmes dont le maître le plus pur envierait le mélancolique et voluptueux tribut, confidentes ingénieuses et inspirées qui ennoblissent le chagrin et exaltent le rêve. Ici, la musique populaire est à la fois discréditée et valorisée. D'une part, Proust semble obéir aux exigences d'un esthétisme étroit, selon lequel la culture populaire n'aurait aucune valeur propre. Le discours du discrédit est très marqué, la musique populaire est mauvaise, elle est rejetée par toute oreille bien née et bien élevée, les ritournelles sont fâcheuses, les romances sont mauvaises. Cependant, le jeune écrivain opère une transvaluation de la culture populaire en introduisant des critères complètement autres. La mauvaise musique occupe une place, selon Proust, immense dans l'histoire sentimentale des sociétés. Elle assume un rôle social important. Elle fait partie de l'ensemble des habitudes et des valeurs, disons des mœurs, dans une société particulière. Cette musique exerce une influence sociale massive et semble entraîner une démocratisation du désir. Proust parle du trésor de milliers d'âmes, du secret de milliers de vies. L'écrivain esquisse même une sorte de sociologie en miniature de la culture populaire lorsqu'il propose un rassemblement des différentes couches sociales, je cite, « le peuple, la bourgeoisie, l'armée, la noblesse, comme ils ont les mêmes facteurs, porteurs du deuil qui les frappe ou du bonheur qui les comble, ont les mêmes invisibles messagers d'amour, les mêmes confesseurs bien-aimés. » L'éloge fait par le jeune Proust devient ainsi une forme de panégyrique au sens étymologique du terme. Le terme grec panégoris signifie l'idée de l'assemblée de tout le peuple. De plus, la musique populaire acquiert pour le jeune Proust une fonction édifiante dans la mesure où les airs populaires deviennent des confidentes ingénieuses et inspirées qui ennoblissent le chagrin et exaltent le rêve. La mauvaise musique est ainsi vénérable et c'est par le musicien prêtre que la grâce rêveuse et l'idéal sont transmis. Le mérite de Proust, c'est d'avoir opéré dans un sens une fusion de cultures, ce qui renvoie à un autre contexte dans lequel Roland Barthes souligne, je cite, « l'opposition dans laquelle nous sommes enfermés, culture de masse ou culture supérieure. » Pour Barthes, c'est l'art de Charlot qui suscite, et là je cite, « une joie complète parce qu'il donne l'image d'une culture à la fois différentielle et collective, plurielle. » La question qui s'impose, me semble-t-il, vu la problématique identifiée par Proust dans ce court extrait des Plaisirs et les Jours, c'est la suivante. Dans quelle mesure l'éloge des mœurs populaires fait par Proust aurait-il une applicabilité plus générale au corpus proustien? Mais avant de plonger dans les pages de la recherche, je me permets une courte parenthèse dans laquelle je voudrais vous parler assez rapidement d'un dialogue épistolaire entre Proust et Daniel Halévy en décembre 1907. 1907. Comme vous le savez, Daniel Halévy fut un ami de Proust au lycée. Halévy, qui avait écrit un livre important sur le mouvement ouvrier en France, paru en 1901, avait publié dans les Cahiers de la Quinzaine, en 1907, une nouvelle intitulée « Un épisode ». Proust a lu le texte très attentivement, comme nous permet de voir la correspondance assez copieuse entre les deux écrivains. Et ces lettres me permettront, j'espère, de pousser un peu plus loin cette réflexion sur la culture populaire. Dans sa nouvelle, Halévy évoque le milieu contemporain de l'université populaire d'une manière mélodramatique. L'action se déroule à Ménilmontant, où un jeune ouvrier, Julien Guinou, subit l'influence d'un philanthrope bourgeois qui travaille bénévolement à l'université populaire. Le jeune Guinou finit par rejeter ses origines ouvrières. Les ouvriers autour de lui deviennent, à son avis, des esclaves misérables. Il s'absorbe dans la littérature et en particulier dans la poésie de Baudelaire, mais cette transition culturelle abrupte déclenche chez lui une crise d'identité. Dans la période de perturbation qui s'ensuit, l'ouvrier devient suicidaire, il se tue, un exemplaire des fleurs du mal près de lui. Lors des funérailles de ce jeune déclassé, un de ses amis lance une attaque virulente contre le concept de l'université populaire. Il affirme, et là je cite, qu'il n'y a pas d'art pour le prolétaire, il n'y a pas de science pour le prolétaire. C'est-à-dire, l'art est vu ici comme quelque chose de néfaste, c'est une forme de corruption morale qu'il faut absolument éviter si on est un peuple, comme dit le texte. La réaction de Proust envers la nouvelle de Halévy a été extrêmement détaillée, comme nous permettent de voir les longues lettres qu'il a adressées à son auteur dans les semaines après la parution de l'œuvre. Proust déclare avoir trouvé très remarquable un épisode. Il explique à Halévy, et c'est la citation numéro 1 sur vos exemplaires, « Je reconnais le beau parti pris d'avoir fait quelque chose de froid, de démodé, d'hostile, qui nous prend comme l'hiver, comme la pauvreté, comme la méchanceté. C'est le peuple vu en soi, pas du rivage bourgeois. Je n'aimerais pas vivre avec eux pour une seule raison, c'est qu'Adeline, Adeline c'est le nom de la jeune amie du héros de Halévy, c'est qu'Adeline entre sans dire bonjour et que le héros ne répond pas quand son voisin lui parle. Mais je sais que c'est vrai, je vois tout ce qu'il y a de grand dans cette idée de la mort si peu peuple, si homme de lettres de cet ouvrier. Pour Proust, la mort de Guinou assume une grandeur romantique, ce qui distancie définitivement le héros de sa classe sociale. Dans la caractérisation de Proust, c'est comme si les mœurs de la classe ouvrière avaient des caractéristiques complètement autres et exotiques, comme si la séparation entre les classes sociales était aussi marquée que celle qui existe entre les peuples différents. La conclusion de Proust est assez tranchante, mais enfin, j'ai beau me dire tout cela, je n'en suis pas fou, oh, pas du tout. Est pertinente ici l'observation dans Jean Sainteuil, qui est cité d'ailleurs dans Le Grand Robert, sous l'entrée morale, un Français établi chez les musulmans s'habitue aux mœurs des musulmans, mais s'il y retrouve un Français, retrouve du même coup, pour le juger, la morale française. La réticence de Proust devant la représentation de l'antagonisme social dans la nouvelle de Halévy se manifeste aussi dans les pages de la recherche. Dans le roman de Proust, c'est un accès relativement restreint que nous avons à la culture populaire qui est souvent véhiculé à travers la représentation de la domesticité et du monde de la prostitution. Dans Un amour de Swann, par exemple, le contact avec les couches sociales les plus populaires est très souvent représenté comme une source de corruption morale. Ainsi, Swann devient-il vaniteux, non pas dans sa poursuite des femmes de sa classe et de la noblesse, mais dans sa quête du plaisir sexuel parmi les femmes inconnues de la classe ouvrière, ce qui pousse le narrateur à formuler l'aphorisme suivant, c'est la citation numéro 2, « Les trois quarts des frais d'esprit et des mensonges de vanité qui ont été prodigués depuis que le monde existe par des gens qu'il ne faisait que diminuer, l'ont été pour des inférieurs. » En dépit du ton péremptoire adopté par le narrateur, cette prise de position tranchante est loin de résumer définitivement la perspective sociale du narrateur. Celle-ci évolue au fur et à mesure dans la relation qui est postulée entre les frais d'esprit exorbitant et le contact avec les femmes d'humbles conditions, c'est certes un préjugé bourgeois qui s'exprime, mais il existe une autre dimension d'un amour de Swann qui fait penser aux tensions identifiées par Proust dans son éloge de la mauvaise musique. La réaction de Swann devant les goûts d'Odette fait ressortir une alternance entre l'approbation et le blâme. Swann insiste sur sa propre valeur morale et esthétique. Je cite « J'habite à trop de milliers de mètres d'altitude au-dessus de ces bas-fonds où clapotent et clabaudent de tels papotages. » L'opéra comique, un genre qui plaît énormément à Odette, est rejeté brutalement par Swann comme une forme de, je cite, « musique stercoraire ». La manière dont Madame Verdurin écoute le clair de lune de Beethoven déclenche une série d'insultes lorsque Swann, qui est seul, la caractérise de « idiote, menteuse, maquerelle, entremetteuse ». Le mauvais goût de Madame Verdurin implique ainsi la prostitution du beau, l'intolérance de Swann le prédispose à accepter, c'est la citation numéro 3 sur vos exempliers, la sévérité contre les arts de Platon, de Bossuet et de la vieille éducation française. Pour Swann, c'est comme si le mauvais goût et l'immoralité se rejoignaient. Les lieux fréquentés par Odette dans Un amour de Swann nous permettent d'entrevoir des formes d'habitat plus populaires. Elle rend visite, par exemple, à une couturière qui est à la retraite et qui habite au cinquième étage d'une maison sordide, c'est le temps utilisé par le narrateur, une maison sordide où Swann aurait voulu passer du temps afin de connaître plus intimement la vie d'Odette. Je cite, dans ces quartiers presque populaires, quelle existence modeste, abjecte, mais douce, mais nourrie de calme et de bonheur, Swann eût accepté de vivre indéfiniment. Un mouvement double est en évidence ici, car nous voyons d'une part une idéalisation des conditions de vie de la couturière et des membres de sa classe sociale, mais aussi la suggestion que la vie populaire suscite chez l'intrus bourgeois une violente répulsion. Dans l'évocation de l'immeuble où habite la couturière, le narrateur exprime le sens aigu d'une phobie devant l'abjection. C'est la citation numéro 4. Dans cet escalier pestilentiel et désiré de l'ancienne couturière, comme il n'y en avait pas un second pour le service, on voyait le soir devant chaque porte une boîte au lait vide et sale préparée sur le paillasson. Le manque d'une séparation matérielle entre les mondes bourgeois et ouvriers, signalé par l'existence d'un seul escalier, connote l'idée d'une contagion morale, ce qui renforce les résonances zoliennes de certaines pages d'un amour de Swann. Le lien qui est proposé entre l'abjection et certains domiciles populaires dans la recherche est renforcé dans le premier volume du Côté de Guermantes, lorsque Marcel et Saint-Loup rendent visite à Rachel. Elle habite dans un village des environs de Paris. La description du village se compose d'une forme de diptyque aux volets contrastants. Dans le premier de ces deux volets, la description du village de Rachel est dominée par une évocation de la nature. C'est le printemps et la vue de tous les arbres en fleurs dans les petits jardins des maisons de village donne au héros l'impression que, et c'est la citation numéro 5, que tous les logis, tous les enclos du village étaient en train de faire, à la même date, leur première communion. Dans cette association de la nature et de la religion, nous voyons l'opération d'une forme de sublimation qui permet au narrateur de passer sous silence les conditions de vie de la classe ouvrière elle-même et qui est comparable à l'aveuglement de Saint-Loup par rapport à Rachel. Dans le deuxième volet, le narrateur décrit très rapidement les maisons du village. Elles aussi sont sordides. De plus, le village semble privé de ses occupants puisqu'on n'y voit que Rachel et ses deux amies prostituées, Lucienne et Germaine. Mais le narrateur persiste à vouloir racheter les habitants curieusement invisibles. Dans une évocation qui anticipe sur le premier chapitre de Sodome et Gomorre, il introduit l'idée d'une protection bénigne, c'est la citation numéro 6, mais à côté des plus misérables maisons, de celles qui avaient l'air d'être brûlées par une pluie de salpêtre, un mystérieux voyageur, arrêté pour un jour dans la cité maudite, un ange resplendissant se tenait debout, étendant largement sur elle l'éblouissante protection de ses ailes d'innocence en fleurs. C'était un poirier. La nature se transforme ainsi en une force rédemptrice, mais nous sommes toujours dans la logique du châtiment biblique et de la rédemption. C'est sans doute un peu comme les vices et vertus de Giotto qui, dans l'imaginaire du narrateur, risquent de devenir interchangeables dans le premier volume du roman. De la même manière, l'aveuglement de Robert de Saint-Loup, qui n'arrive pas à voir dans la femme qu'il aime, la Rachel conduit Seigneur, connue par le héros dans une maison de passe, est précédé par l'aveuglement du héros lui-même. L'erreur de ce dernier, c'est d'avoir pris les arbustes en fleurs qu'il admire pour des dieux étrangers. C'est la citation numéro 7. « Ne m'étais-je pas trompé comme Madeleine quand, dans un autre jardin, un jour dont l'anniversaire allait bientôt venir, elle vit une forme humaine et crut que c'était le jardinier ?» Allusion à la fête de Pâques et à la rencontre momentanée entre le Christ ressuscité et Madeleine quelques jours après la mort de Jésus. Dans ces pages du côté de Guermantes, la présence d'éléments mélodramatiques est claire. Nous avons vu l'invraisemblance qui fait que Robert semble incapable de comprendre la réalité de la vie de Rachel. Nous avons vu également la dramatisation biblique de cette scène de village, le châtiment divin, la protection offerte par un ange, l'erreur de Madeleine. Ces éléments divers servent à former ce qu'on pourrait appeler le réseau du mélodrame, et il n'est pas sans importance que ce soit dans ce réseau-là que se situe la réflexion morale. C'est bien la conclusion du critique américain Edmund Wilson dans son livre Axel's Castle, le château d'Axel. Pour Wilson, la préoccupation avec la moralité fonctionne dans l'œuvre de Proust dans la mesure où elle a tendance à se porter au mélodrame. Je voudrais maintenant analyser quelques extraits du temps retrouvé où le contact avec la culture populaire est ancré dans certaines expériences limites, à savoir l'expérience de la guerre et celle d'un érotisme extrême. Je vais m'attarder sur deux passages en particulier. Premièrement, la lettre de Saint-Loup dans laquelle il décrit la vie au front en compagnie de soldats de classe ouvrière. Et deuxièmement, la scène dans la maison de passe gérée par Jupien où Charlus et d'autres résidents du Faubourg Saint-Germain rencontrent des jeunes gens du quartier ouvrier de Belleville. Dans les deux extraits, c'est la moralité qui est en jeu. En outre, le sens du devoir de la classe ouvrière est présenté comme une découverte aussi bien pour Saint-Loup que pour Charlus. Mais alors que Saint-Loup salue ce devoir, Charlus n'y voit qu'un obstacle à son plaisir. En premier lieu, je considérerai le compte-rendu de Saint-Loup dans lequel les soldats prolétaires deviennent, selon Saint-Loup, vénérables. La guerre lui donne, c'est-à-dire donne à Robert de Saint-Loup, l'opportunité de vivre côte à côte avec la classe ouvrière. Il précède son ode aux poilus d'une apologie, ce faisant nous laissant croire à une perspective élitiste. Car sa lettre à Marcel, que Saint-Loup pense être sceptique sur la valeur de la culture populaire au sein de l'armée, débute par l'affirmation qu'il ne peut y avoir de place dans la littérature épique pour des expressions comme « boche »,« ils ne passeront pas » et « on les aura », termes qui sont, c'est la citation numéro 8, cette chose contradictoire et atroce, une affectation, une prétention vulgaire que nous détestons tellement. Là encore, me semble-t-il, nous entendons les échos d'une anxiété sur la hiérarchie rencontrée une première fois dans l'éloge de la mauvaise musique. Mais une fois concession faite au bon goût qui sous-tend la hiérarchie sociale, Saint-Loup est libre d'endorser l'héroïsme des soldats. C'est la citation 9. Surtout, dit Saint-Loup, surtout les gens du peuple, les ouvriers, les petits commerçants qui ne se doutaient pas de ce qu'ils recelaient en eux d'héroïsme et seraient morts dans leur lit sans l'avoir soupçonné. L'épopée qui émergera de la guerre, poursuit Saint-Loup, aura la beauté d'un chef-d'œuvre de Rodin ou d'Aristide Maillol, et comme la sculpture elle-même sera issue d'une matière affreuse qu'on ne reconnaîtrait pas. Convergent ici plusieurs éléments, la classe sociale, la condescendance, la glorification de la classe ouvrière quand elle acquiert une grandeur morale, l'idée d'une rédemption esthétique de ce qui est vil. Rappelons-nous bien cette formulation, une matière affreuse, et le discours sur la fierté patriotique. Selon Saint-Loup, les gens du peuple, les ouvriers, sont transformés par un héroïsme qu'il recelait en eux sans le savoir. Il est important de noter quand même que l'héroïsation ne bouscule en rien l'ordre hiérarchique, l'héroïsme étant conféré d'en haut. En outre, le devoir démontré par ces hommes ne causera aucun changement dans l'édifice social, mais alimentera l'écriture épique. Selon Saint-Loup, le terme de poilu en rejoindra d'autres comme, dit Saint-Loup, déluge, Christ et barbare, que Hugo et Vigny, entre autres, ont utilisé. L'engouement de Saint-Loup pour ces soldats de la classe ouvrière est sans doute intimement lié à son intérêt pour le socialisme. Par contraste, la position du narrateur est moins partisane et tend à se situer en dehors du conflit. En se tenant à distance des événements, il note, et c'est la citation numéro 11, « Les hommes, entraînés dans l'immense révolution de la Terre, sur laquelle ils sont assez fous pour continuer leurs révolutions à eux et leurs vraies guerres comme celles qui ensanglantaient en ce moment la France. Le mouvement planétaire et l'échelle cosmique éclipsent les conflits sociaux et les histoires héroïques sur les champs de bataille. Tout comme son neveu, Charlus adore les poilus, et non seulement pour l'assouvissement de ses désirs homosexuels. Nous apprenons qu'il a transformé sa maison en hôpital militaire, je cite, « cédant du reste, je le crois, au besoin bien moins de son imagination que de son bon cœur. » Un deuxième passage décrit le contact de Charlus avec la classe ouvrière. Il s'agit de l'épisode de la maison de passe de Jupien. Pour satisfaire le désir sexuel de Charlus, il faut toute une panoplie d'accessoires et un énorme effort physique de la part des jeunes gens employés dans l'hôtel. Le narrateur énumère les motivations d'un de ses employés, de Maurice. Il cite la force de l'habitude, le manque d'éducation, le besoin d'argent et c'est la citation numéro 12, un certain penchant, c'est-à-dire de la part de Maurice, un certain penchant à gagner l'argent d'une façon qui était censée donner moins de mal que le travail et en donner peut-être davantage. L'évaluation du narrateur allie une estimation objective à un jugement moralisateur. Et pourtant, Maurice lui-même alimente le récit du devoir et du paternalisme social. Il cite le cas d'un officier qui meurt pour avoir essayé de sauver son ordonnance, acte suffisant pour un Maurice larmoyant de mettre sa vie au service de cet officier. Une histoire de bravoure exceptionnelle sert ainsi de soutien à une hiérarchie et à un ordre social établi et calme la suspicion des soldats qui se plaignent que les riches continuent à rechercher le plaisir à Paris, même en temps de guerre. Le désir des supérieurs de voir leurs subalternes transformés, remoulés, revêt diverses formes. Nous avons vu Saint-Loup occupé à donner aux simples soldats, à la manière de Rodin, à la manière de Mayol, le rôle de défenseur de la patrie. La relation de son oncle avec les jeunes employés de la maison de passe est une autre manifestation de rencontre qui, si vous voulez, transgresse l'ordre social. Mais dans le cas de Charlus, la malléabilité du subalterne est loin d'être garantie. Car si le rôle du gigolo est de jouer le sadique, il n'en reste pas moins que sa conscience vient gâter le jeu, à la grande frustration de Charlus. Étant donné qu'il a un besoin quasi maladif de dépravité, Charlus ne peut qu'être frustré par le conformisme moral de la classe ouvrière. Par exemple, Maurice explique que les 50 francs qu'il a gagnés iront à ses parents ainsi qu'à son frère qui est au front. L'expression de ce sentiment vertueux agace Charlus qui, dans la poursuite du plaisir sexuel, ne peut qu'exprimer un dédain aristocratique pour cette sentimentalité populiste. Le mélodrame de cette scène dans la maison de passe devient le théâtre où s'expose et se joue la moralité. Cet épisode fait écho à la scène de Montjouvain à Combray, où la moralité inhérente de Mademoiselle Vinteuil exclut toute perspective de pur sadisme. Le narrateur, dans ses réflexions sur le sadisme, note que, c'est dans les pages de Combray, que les sadiques de l'espèce de Mademoiselle Vinteuil sont des êtres si purement sentimentaux, si naturellement vertueux. Dans le temps retrouvé, la poursuite du plaisir sexuel atteint une autre dimension et se trouve comme exotisée dans cet espace qui est ouvert par la question des différences de classe. Nous voyons ainsi émerger un modèle sur lequel le narrateur décline toutes les formes de hiérarchie. Nous voyons la durabilité des relations hiérarchiques dans les propos du narrateur lorsqu'il remarque malicieusement que les domestiques aimés, c'est la citation numéro 14, lorsque les domestiques restent, hélas, des domestiques et marquent plus nettement les limites que nous voudrions effacer de leur caste au fur et à mesure qu'ils croient le plus pénétrer dans la nôtre. Le temps retrouvé esquisse des modèles archaïques d'Ancien Régime en ce qui concerne la cohabitation de classes différentes. Ainsi, le Charlus vieillissant ne vit qu'avec ses inférieurs, avec la domesticité, ce qui pousse le narrateur à tracer un parallèle avec la vie du duc de La Rochefoucauld. Alors que beaucoup d'aristocrates passent sans la moindre honte la plupart de leur temps dans la maison de passe de Jupien, il n'en va pas de même pour le serviteur ou pour l'ouvrier industriel, c'est la formulation utilisée par le narrateur, pour qui la fréquentation d'un tel établissement entache leur honneur. Ces jeunes gens, loin d'être mauvais, font de merveilleux soldats à la guerre et dans la vie civile sont, je cite, « de bon cœur, sinon tout à fait de braves gens ». Charlus sait que celui qui le tourmente dans ses jeux sexuels n'est pas plus méchant que l'élève désigné au sort pour faire le Prussien et qui doit endurer la haine feinte de ses camarades. les réflexions du narrateur sur le rôle de Joupien évoquent à la fois un contexte historique immédiat et une vaste fresque dans laquelle les questions morales acquièrent une dimension millénaire. Cette dernière est aisément discernable dans la citation suivante, c'est la citation numéro 15. Notre époque, sans doute, pour celui qui en livre l'histoire dans 2000 ans, ne semblera pas moins baigner certaines consciences tendres et pures dans un milieu vital qui apparaîtra alors comme monstrueusement pernicieux et dont elle s'accommodait. Ailleurs dans le temps retrouvé est exposée la caricature morale à l'œuvre dans les différences de classe. Charlus n'a que mépris pour l'article de Brichot dans lequel celui-ci critique Zola qui trouve « plus de poésie dans un ménage d'ouvriers dans la mine que dans les palais historiques ». Après la guerre, dans la carrière de journaliste de Brichot, le narrateur ne peut s'empêcher de voir, je cite, « la vulgarité de l'homme qui apparaissait à tout instant sous le pédantisme du lettré ». Une idée clé dans les pages du temps retrouvé, c'est non seulement que la mort égalise les conditions, mais que l'expérience de la vie telle qu'elle est vécue dans toute sa diversité par des gens très différents, se transforme en matière à réflexion philosophique pour le narrateur. Il tient à souligner le sens d'une obligation vers autrui. Il se peut que les gens soient, je cite, « vulgaires », mais dans un ridicule, l'artiste voit une belle généralité. Et la citation 18 qui suit, « car le romancier n'a écouté les autres que quand, si bête ou si fou qu'ils fussent, répétant comme des perroquets ce que disent des gens de caractère semblable, il s'était fait par là même les oiseaux prophètes, le porte-parole d'une loi psychologique. » Le narrateur prend conscience de sa dette non seulement envers des êtres aimés, comme sa grand-mère, disparue depuis longtemps, mais aussi de bien d'autres personnes auxquelles jusque-là il se sentait indifférent. Citation 19. « D'ailleurs, j'avais une pitié infinie, même d'être moins cher, même indifférent, et de tant de destinées dans ma pensée, en essayant de les comprendre, avait en somme utilisé la souffrance ou même seulement les ridicules. Tous ces êtres qui m'avaient révélé des vérités et qui n'étaient plus, m'apparaissaient comme ayant vécu une vie qui n'avait profité qu'à moi et comme s'ils étaient morts pour moi. Le sacrifice fait par les autres exerce une influence sur l'écriture elle-même, car celle-ci deviendrait, c'est la citation numéro 20, un langage universel, mais qui du moins sera permanent, qui ferait de ceux qui ne sont plus, en leur essence la plus vraie, une acquisition perpétuelle pour toutes les âmes. Dans sa leçon inaugurale à l'université d'Oxford en 1993, intitulée « The Morality of Proust », « La moralité de Proust », le critique littéraire britannique Malcolm Bowie analyse l'impact de ces pages du temps retrouvé. Pour Bowie, la vision de la vie morale qui y est esquissée éloigne le lecteur de la réflexion sur l'art qui a été jusque-là dominante. Selon Bowie, Proust ose, et là je cite, enfin c'est ma traduction, Proust ose crier le sens d'une communauté et d'une communication entre le romancier et ceux et celles qui le lisent, et entre écrivains et lecteurs, et l'innombrable compagnie de ceux qui n'écrivent et ne lisent pas. C'est donc une forme de charité, d'altruisme, qui permet aux ridicules, aux bêtes, aux méchants et aux ingrats d'être inclus dans ce que Bowie appelle « the merciful work of literary composition », c'est-à-dire la compassion, la miséricorde qu'est la composition littéraire. Un des souvenirs d'enfance évoqués par le narrateur du temps retrouvé se rapporte à un séjour d'une semaine dans la chambre de bonne de Lally, une petite chambre qui donne sur la place de l'église de Combray, cette petite chambre dont le mobilier simple séduit dans un sens le jeune Marcel. La mention de ce souvenir dans les pages du temps retrouvé nous permet peut-être de passer à d'autres pages où la cohabitation de Marcel et de Françoise est décrite lorsqu'ils collaborent à la production matérielle du livre que le héros est prêt à écrire. Alors, le narrateur recherche des métaphores tirées des arts les plus élevés pour donner une idée de l'œuvre qu'il va créer, et malgré cela, il préfère parler de son travail en termes très ordinaires. C'est la citation 21. « Et changeant à chaque instant de comparaison, selon que je me représentais mieux et le plus matériellement, la besogne à laquelle je me livrerais, je pensais que sur ma grande table de bois blanc, regardée par Françoise, comme tous ces êtres sans prétention, qui vivent à côté de nous, ont une certaine intuition de nos tâches, je travaillerai auprès d'elles. » La construction du livre serait en somme apparentée à la confection d'une robe. C'est Françoise qui avait toujours affirmé avoir besoin d'un certain numéro de fil afin de bien coudre. Et là, vous vous rappelez bien cette citation, une sorte de compréhension instinctive du travail de Marcel. Françoise devinait mon bonheur, elle respectait mon travail. Comment faut-il lire ces images? Suggèrent-elles une vision égalitaire? Ou bien, au contraire, sont-elles les marques d'un paternalisme social de la part du narrateur? L'expression de respect pour le travail de l'artiste, conjuguée à l'absence de prétention, suggère une attention discrète de la part de Françoise, le devoir agissant au service de l'art. La critique proustienne a souvent souligné l'importance de cette page du temps retrouvé où le narrateur affirme qu'un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés. La métaphore du cimetière nous renvoie au premier des textes que j'ai commentés aujourd'hui, c'est-à-dire à l'éloge de la mauvaise musique où nous lisons les lignes suivantes. Un cahier de mauvaises romances, usé pour avoir trop servi, doit nous toucher comme un cimetière ou comme un village. Qu'importe que les maisons n'aient pas de style, que les tombes disparaissent sous les inscriptions et les ornements de mauvais goût, de cette poussière peut s'envoler la nuée des âmes. Dans les deux textes, la réflexion sur la mort qui est associée à la création artistique implique l'idée d'une égalisation que nous avons vue à d'autres moments dans le temps retrouvé. Rappelons-nous la manière dont Proust compare la situation de l'écrivain qui se trouve devant une personne ridicule à celle du chirurgien qui soigne le malade et ne le mésestime pas d'être affecté d'un trouble, je cite, d'un trouble assez fréquent de la circulation. En guise de conclusion provisoire, j'aimerais évoquer la perspective d'un philosophe dans un texte qui est sans doute mieux connu que l'éloge de la mauvaise musique. Je pense au texte de Maurice Merleau-Ponty intitulé « Éloge de la philosophie ». C'est dans la conclusion de cette réflexion que Merleau-Ponty situe le philosophe non pas du côté d'un savoir absolu, mais plutôt dans le monde, parmi les hommes. Je cite, c'est la citation 22, « La dialectique du philosophe, ou son ambiguïté, n'est qu'une manière de mettre en mots ce que chaque homme sait bien, la valeur des moments où son monde privé devient monde commun. Ces mystères sont en chacun comme en lui. » La perspective de Merleau-Ponty rejoint, me semble-t-il, celle du narrateur de Proust, dans la mesure où l'esprit de celui-ci s'ouvre à une conception plus large, je dirais presque plus généreuse, de la vie. Dans cette fusion de perspectives, la culture populaire, la culture, entre guillemets, mauvaise, est réhabilitée, comme nous avons vu dans l'éloge de la musique, ainsi que dans certaines pages de la recherche. Une égalisation comparable est à l'œuvre dans la conclusion de Merleau-Ponty, et c'est avec ces quelques remarques du philosophe que je terminerai ma communication. C'est la dernière citation dans vos exempliers. Que dit le philosophe des rapports de l'âme et du corps, sinon ce qu'en savent tous les hommes, qui font marcher d'une pièce leur âme et leur cœur, leur bien et leur mal? Qu'enseigne-t-il de la mort, sinon qu'elle est cachée dans la vie, comme le corps dans l'âme? Et c'est cette connaissance qui fait, disait Montaigne, mourir un paysan et des peuples entiers aussi constamment qu'un philosophe. Merci de votre attention.